Avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose qui est cher à mon cœur. Cet épisode va parler d'un sujet qui est sensible, qui fait beaucoup mouche dans l'église ou dans la plupart des communautés religieuses. Ceci étant dit, j'aimerais inviter tout et chacun à écouter cet épisode avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion et surtout beaucoup d'amour. Cet épisode n'a pas été réalisé dans l'objectif de faire l'apologie du divorce, loin de là. Et Daniel et moi sommes des ferventes croyantes en l'institution divine qu'est le mariage et nous croyons que le mariage est une institution qui a été créée par le Seigneur et que le Seigneur valorise. Ceci étant dit, dans la vie, il y a certaines circonstances qui peuvent pousser des gens à divorcer, qui peuvent pousser des gens à se séparer. Et je crois que Dieu valorise plus ses enfants. Le Seigneur a plus à cœur. Une personne, en fait, qui divorce n'a pas moins d'importance qu'une personne qui choisit de rester mariée. Donc, j'invite vraiment, encore une fois, tout et chacun à écouter cet épisode-là avec beaucoup d'amour et à comprendre que Vocal, avant tout, est une plateforme pour pouvoir donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir partager leur témoignage. Vocal est une safe space et j'aimerais vraiment que cela demeure ainsi, qu'il n'y ait point de jugement et que tout et chacun puisse écouter cet épisode-là avec un cœur ouvert. Merci beaucoup. Le divorce est souvent perçu comme un échec, une rupture qui laisse des cicatrices profondes, d'autant plus lorsqu'on a grandi avec la conviction que le mariage est un engagement pour la vie. Dans cette deuxième partie de notre échange avec Daniel, elle nous partage son parcours après son divorce, comment elle a fait face à la douleur, au regard des autres et à la reconstruction de son identité, au-delà de l'étiquette de divorcée. Elle nous parle aussi d'un sujet aussi qui tabou, la sexualité après le divorce, et surtout de comment elle a réappris à croire en l'amour et à trouver le bonheur en elle-même. Un témoignage sincère et inspirant à écouter sans modération. Je suis Sarah Missougué-Lazy et bienvenue dans ce quatrième épisode de Vocal, le podcast où on brise tous les clichés et on parle librement de tout ce qui nous touche au quotidien. La maternité, le mariage, l'intimité, la foi en Christ et bien plus encore. Ici, il n'y a pas de filtre, pas de tabou, on aborde tout de manière complètement décomplexée. Alors Daniel, on en parlait un peu en off. Je t'ai posé la question de combien de temps ton mariage a duré. Tu m'as dit que ton mariage a duré exactement 1 an et 1 mois. La question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu entres dans ce mariage, à quel moment tu réalises que c'était vraiment pas un bon move en fait et que c'était pas la meilleure décision que tu aurais pu prendre?
Très bonne question Sarah, et ça c'était vraiment dès la deuxième semaine. Dès le début, voilà, il y a eu des choses qui ont, il y a eu des débuts d'abus psychologiques. On se disait, bah, je me faisais dire que voilà, on regrettait de m'avoir épousée, que je l'avais piégée et que voilà, tous ses parents l'avaient prévenu de ne pas me marier et qu'il s'est entêté et que maintenant il regrette. Donc dès le début, il y avait déjà des choses comme ça et je me suis dit, mais ah, ça c'est pas une situation très saine, hein, c'est pas ce qu'on avait vu avant. Mais bon, on est chrétien et voilà, je me disais que avec à force de prière et de persévérance, le Seigneur allait nous assister à redresser les lignes courbes.
Tous les mariages passent par une phase difficile ou une phase, moi j'appelle ça the growing pains of marriage, c'est-à-dire que tu entres dans quelque chose. Au début, c'est l'amour fou et ensuite la réalité commence à t'exposer. De même qu'on dit le faire aiguise le fer, le mariage est une institution dans laquelle le Seigneur veut qu'on soit heureux, certes, qu'on connaisse le bonheur, certes, parce qu'il y a des joies conjugales, il y a des joies conjugales en fait. Mais dans le mariage, on est conduit à grandir. Et le fait de grandir, moi j'ai un bébé à la maison, quand il y a des pics de croissance, c'est pas forcément agréable. L'enfant fait une régression dans le sommeil, il est pas à l'aise, tout ça. Donc en fait, le mariage nous étire. Donc on peut connaître effectivement des périodes ou des moments de difficulté. Dans votre cas, quand vous avez commencé à avoir vos premières difficultés, vos premières défis, vos premiers défis, excusez-moi, est-ce que vous avez été accompagné et quels ont été les conseils, quelles ont été les choses qui ont été mises en place
pour que les choses aillent mieux? Est-ce qu'il y a eu de son côté ou du tien la volonté de faire un travail, une remise en conscience, une remise en question, pardon? Comment on traverse ces moments difficiles-là et avec quel soutien?
Alors, quand on a remarqué les problèmes de communication qu'on avait entre nous, bon, j'ai proposé à plusieurs reprises qu'on se fasse suivre par des thérapeutes de couple, chrétiens ou pas. Et ça m'est toujours revenu à la face pour me dire, mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. Donc, il faut juste que tu apprennes à me respecter, à respecter mon mari. Et puis voilà, tout devrait se résoudre. Mais sinon, oui, on a été accompagnés. On a été accompagnés par nos parrains de mariage qui sont quand même un couple avec plus de 30 ans de mariage, qui nous avaient suivis déjà avant et qui ont continué à nous suivre aussi. Nous avons été accompagnés par des prêtres, par des pasteurs, vraiment la totale, hein, tout... On a été assez accompagnés, mais voilà, il n'y a pas vraiment eu de progrès.
Alors, Daniel, la question que je veux te poser maintenant, c'est quel a été l'événement déclencheur pour toi qui t'a fait comprendre qu'une séparation, donc on n'arrive pas tout de suite au divorce, mais qu'une séparation était nécessaire?
À un moment donné, il y avait eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits, beaucoup d'injures. On m'empêchait de travailler aussi. Donc voilà, j'ai décidé de prendre 2, 3 jours et aller chez mes parents, histoire de lui permettre de se calmer. Et voilà, c'est ça qui s'est transformé en 6 jours plus longs.
Et les conflits tournaient autour de quoi? Est-ce que tu as des exemples concrets de situations qui débordaient, qui ont vraiment motivé ce départ chez tes parents?
Bon, il y avait des injures, ils respectaient pas mon travail. Pendant que moi j'étais en réunion, ils pouvaient mettre les matchs de la CAN, et ils m'empêchaient de dormir la nuit, et ils me disaient, bah écoute, tu t'es pas mariée pour rester au lit. Donc ouais, c'est ça. Il pouvait, par exemple, lui, il se réveillait peut-être à 3 heures du matin ou 2 heures du matin pour faire des omelettes, parce que voilà, c'est sa vie. Et je lui dis, mais s'il te plaît, tu peux faire moins de bruit, parce que voilà, il est 2 heures, je travaille demain. Il dit, bah écoute, moi je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et si tu voulais pas te marier, et si tu veux pas vivre avec quelqu'un, fallait pas te marier. Donc il y avait des choses comme ça qui se passaient. Et il y avait aussi des petits conflits à propos d'argent aussi également, qui faisaient que voilà, il m'insultait tout le temps. Et il me disait à quel point il était coincé avec moi, et que voilà, il y a aucun jeune de son âge qui se retrouvait avec des femmes comme moi. Donc tout ça avait vraiment créé une atmosphère invivable à la maison. Mes parents avaient peur que ça tourne à la violence physique, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de menaces de violence physique. Et c'est là que j'ai pris quelques habits pour passer 2, 3 jours chez mes parents, le temps qu'ils se calment.
Ok, donc on constate violence psychologique, beaucoup d'injures, de manque de respect, menaces de violence physique, c'est beaucoup de choses pour une seule personne. Donc, lorsque tu pars chez tes parents, comment tu vis ce moment de prise de conscience que ton mariage ne fonctionne plus? Quelles sont les premières émotions qui viennent avec tout ça? C'est quoi le déclic à ce moment-là? Et qu'est-ce qui te mène à te dire que à te dire que bon, tu sais quoi là? Je pense que ce mariage-là, je n'en peux plus.
Ben, il y a un immense sentiment d'échec, hein. Tu sens que t'as échoué. Il y a aussi un gros sentiment d'incompréhension. Tu me l'as demandé plus tôt, mais peut-être je pense que j'ai pas répondu. Mais quand il y avait des conflits, souvent la personne qu'on blâmait, c'était moi. Et je pense que ça venait du fait que la plupart des personnes qui allaient voir pour nos conflits étaient peut-être des gens de ma famille ou des gens qui me connaissaient. Donc ils essayaient de garder un milieu neutre en m'accablant de tout, de me dire, mais toi, contrôle ta bouche, faut respecter ton mari, apprends à mieux répondre, c'est pas tout on dit, sois moins franche, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez franche, quand quelque chose va pas, je te dis. Et lui, il est un peu macho et ça ne passait pas. Donc c'était moi qu'on blâmait. Donc quand je suis retournée chez mes parents, bah il y avait aussi ce blâme de me dire, mais Daniel, qu'est-ce que tu as fait pour que ça se rende là? À quel point tu l'as blessé pour qu'il te traite comme ça? Et voilà, un échec qui est de dire, mais what happened?
Alors, en off, tu m'as parlé aussi du fait que il y a eu des abus financiers du côté de ton conjoint. Et je pense qu'une fois, lorsqu'on parlait dans notre groupe d'Éden, tu as eu à mentionner qu'il t'avait laissé sévèrement endetté. Et c'est très difficile, en fait, de se reconstruire endetté comme ça, surtout à un si jeune âge. Comment l'abus financier commence?
En fait, en réalisant, je réalise que l'abus financier, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, a commencé bien avant le mariage. Pour notre mariage, qui a coûté quand même beaucoup d'argent, parce que c'était un mariage en Afrique, de son côté, ils ont presque participé à rien. La seule chose qu'ils ont participé, c'est de payer ce qui se trouve dans la liste de la dot, qui a été réduite au strict minimum, et même ça, Donc déjà là, j'ai dû supporter à 23 ans toute seule les charges de mariage de je sais pas combien de personnes. Ses parents sont venus de son pays d'origine et ils ont vécu dans mon pays pendant des semaines. Et il fallait payer un chauffeur, une villa, tout ça. Bref, c'était vraiment très cher. Ensuite, quand on s'est mariés, bon, on a commencé à habiter ensemble. Bien évidemment, c'était pas quelqu'un qui habitait au Québec, donc la plupart des factures étaient sous mon nom, pour ne pas dire toutes. Ce qui veut dire que parce qu'il n'était pas du pays. Ce qui veut dire que quand on se fâche, quand il y a une dispute, ce monsieur pourrait se rendre confortable de retirer l'argent du compte conjoint parce qu'on est fâché, ou me kicker out du compte conjoint parce que voilà. Quand j'ai quitté, sa manière de faire pression pour que je revienne, c'était de vraiment arrêter de contribuer à toutes les factures auxquelles il contribuait et de juste me laisser la charge de tout un appartement, l'internet, là, plein de trucs, alors que je ne vivais même pas là. Et pendant des mois. Et ça, c'est parce que légalement, je suis la personne qui est responsable. Et j'ai essayé plusieurs fois de parler au concierge de l'immeuble, mais il me disait, mais écoute, madame, c'est vous qui êtes sur le bail. Donc, s'il y a un problème, réglez ça entre vous. Donc, il y avait plusieurs problèmes comme ça. On s'attendait à ce que moi, je finance beaucoup de choses, pour ne pas entrer dans les détails de leur côté. Les dettes qu'on a prises lors du mariage se sont retrouvées sous mon nom. Et aujourd'hui, bien qu'on soit séparés, c'est moi qui dois les solder parce que lui, il a un clean slate. Il n'a pas tout ce fardeau-là à gérer.
En fait, pour les auditeurs qui ne vivent pas au Canada, je veux juste en fait remettre les choses dans un contexte. Quand tu es marié à quelqu'un qui n'est ni résident ni citoyen et que tu envisages ou que tu décides en fait de te porter garant de cette personne-là quand cette personne-là vient habiter ici, donc la personne n'a pas le droit d'avoir du crédit, la personne n'a pas le droit à des emprunts. Donc tout ce que la personne paye, soit sort de sa poche, c'est-à-dire de manière en cash, ou soit la personne devient dépendante de toi. Et en fait, dans le contexte de Daniel, c'est que le gars, en fait, il dépendait totalement d'elle, et quand il avait conscience de ça, et du coup, quand il voulait lui mettre un coup de pression, il se disait quoi de mieux que de détruire en fait son crédit, quoi de mieux que de la laisser dans un gouffre financier, sans nom, aussi jeune. C'est vraiment difficile, ça a dû être très très lourd et j'imagine aussi que ça a dû créer énormément de stress. Donc, on arrive au divorce. La question que je te pose maintenant, c'est en tant que chrétienne, comment as-tu réconcilié ta foi avec le fait de vivre un échec dans ton mariage? Sachant que l'Église a des enseignements très très forts sur le mariage. On sait que un mariage a une vocation permanente et la Bible même parle du fait que dans un des enseignements de Jésus, Jésus dit que c'est à cause de la dureté de nos cœurs que dans l'Ancien Testament, Moïse autorisait les gens à divorcer si ce n'était pas dans le cas de l'adultère, par exemple, qui est une raison valable. Donc, comment tu vis ça? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as l'impression que tu as déçu le Seigneur? Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu es loin de Dieu? Comment tu vis en fait ce que moi j'appelle un peu une traversée du désert?
Écoute, Sarah, c'était l'incompréhension totale, c'était vraiment le désert, parce que voilà, il y a les deux contradictions. Du genre, ok, Dieu, il aime le mariage, il veut qu'on soit sanctifié à travers le mariage, mais en même temps, Dieu, il m'aime, il veut que je sois en vie et en santé. Donc, c'était dur, c'était dur. Et une chose qui m'a beaucoup aidée, et ça, j'en suis très reconnaissante, et shout-out à coach Fatim, de Retour en Éden, qui fait aussi du coaching chrétien. Un jour, j'ai participé à une de ses conférences Sisterhood et elle parlait du mariage, plein de trucs. Ça m'avait interpellée. Je lui dis, mais écoute, on n'est pas censé mourir avant le mariage. Donc, du coup, je l'ai contactée et j'ai pu suivre du coaching avec elle. Et c'est ce coaching-là qui m'a aidée à réconcilier ma relation avec Dieu, comprendre que Dieu ne me détestait pas. Même si j'étais la pire femme du monde, ce qui n'était pas le cas, il m'aimait quand même, malgré tout. Et ça m'a permis aussi de comprendre mon identité en Christ. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que chaque personne a son histoire et qu'on ne peut pas appliquer une règle et une loi universelle à tout le monde. Mon histoire est très compliquée, on n'est pas rentré dans beaucoup des détails. Sarah, tu sais de quoi je veux parler. Le Seigneur m'a, voilà, c'était pas facile, mais en m'attachant à la parole et en faisant le coaching, j'ai pu vraiment aller toucher le point et réaliser que il est avec moi, peu importe ce que je décide de faire, il est avec moi.
Je pense qu'il faut s'accorder beaucoup de grâce. Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a le fait que nous sommes des hommes et que des fois nous nous embarquons dans des histoires sans consulter le Seigneur et on vit des blessures qui sont profondes et en aucun cas le Seigneur n'a envie de nous condamner pour ces choses parce que c'est des erreurs Lui, il ne s'arrête pas là. Il y a dans la Bible le cas, par exemple, de la femme samaritaine à qui Jésus va dire, tu as été mariée plus de 5 fois, mais aucun de ces hommes n'est vraiment ton mari, en fait. Il faut s'accorder beaucoup de grâce en disant que oui, ce n'est pas ce que Dieu souhaitait, mais c'est ce qui est arrivé et comment on va de l'avant avec ça et comprendre que quand on revient vers le Seigneur, Dieu est un père avant tout, comme ça a été le cas pour le fils prodigue qui est parti, qui a gaspillé toute sa richesse, qui a fait n'importe quoi et qui est revenu à la maison. Le Père nous accueille avec les bras ouverts, mais il faut pas non plus être dans le déni de se dire que les blessures intérieures ont des conséquences sur nous. Les blessures intérieures ont un impact sur nous et en tenant la main du Seigneur, il y a un véritable processus de guérison par lequel on doit passer. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est l'aspect personnel de vivre un échec ou la façon dont tu imaginais que tu allais être perçu par les autres? Et quand je dis ça, c'est parce que les auditeurs qui ont écouté ce podcast, on en a parlé en off, c'est la première fois pour la plupart des gens, c'est la première fois qu'ils vont apprendre que tu es divorcé. Donc, il y a toutes ces choses-là et j'imagine que ça n'a pas forcément été facile pour toi de venir parler de ton histoire comme ça. Tu as dû y penser. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à naviguer, en fait? Est-ce que c'était plus difficile pour toi de te regarder dans la glace en te disant, ouais, j'ai échoué à quelque chose là? Ou plus de te dire, qu'est-ce que les gens vont penser s'ils apprennent ça?
Ce qui a été le plus compliqué pour moi, Sarah, c'est l'échec personnel. Bon, on a vu un peu à travers mon histoire, je suis très dure avec moi-même. Je suis ma plus grande critique. Et le fait de savoir que j'ai échoué ou que j'ai essayé dans ma vie de suivre, de cocher toutes les cases et que de me retrouver face à un si grand échec, c'était dur. C'était dur. Je me suis beaucoup, beaucoup blâmée, vraiment. Mais avec le temps, j'ai commencé à me donner de la grâce. Je dis, mais t'étais jeune. T'étais blessée, t'étais jeune, t'étais immature, tu ne savais pas. D'un autre côté, ce dont je suis quand même fière, c'est que j'ai réussi à me détacher du regard des gens. C'est pas les gens qui payent mes factures. Le regard des gens ne sera pas là avec moi quand à 3h, 2h du matin, j'arrive pas à dormir parce que voilà, ça ne va pas. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on est déjà assis, c'est ça? On est déjà assis par terre. Écoute, je me suis dit, voilà, it is what it is. Ce n'est pas écrit sur mon front. J'ai essayé de faire la bonne chose. Ça n'a pas fonctionné. Je choisis de retourner à celle que Dieu a destinée, celle que Dieu a créée vraiment. Je choisis de m'épanouir en fait, d'être heureuse et d'être en santé, surtout la santé émotionnelle, spirituelle et physique aussi.
Quand on est perfectionniste, on a très souvent peur d'une chose, c'est de l'échec. Au point où on ne s'autorise même pas dans la vie quotidienne à essayer des choses de peur d'échouer. Donc justement, quand on traverse un échec, il faut guérir de ça pour pouvoir aller de l'avant. Quelles sont les étapes que tu as traversées pour guérir émotionnellement après ton divorce?
Donc pour guérir, il y a eu plusieurs émotions. Il faut faire le deuil. Il y a eu l'acceptation. Donc accepter ce qui s'est passé, voilà. La remise en question. Se remettre en question, dire, ok, c'est la vie, mais en quoi est-ce que j'ai contribué à ça? Pardon, se pardonner à soi-même. D'abord, moi, c'était mon plus gros défi et je lutte encore avec ça aujourd'hui. Pardonner aux autres aussi, que ce soit à mes parents, à mon ex-conjoint, à sa famille, à pardonner, vraiment. Et finalement, l'amour. Donc, tout cet amour que j'ai cherché partout, bah, j'essaie de me redonner maintenant et encore mieux d'aller le puiser vraiment chez Jésus. Une chose, j'en ai parlé déjà, c'est vraiment qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment le coaching. Le coaching a été salutaire pour moi parce que je me suis retrouvée dans une étape de ma vie où j'avais ma famille qui était contre l'idée du divorce. Mes parents laissaient venir mon ex à la maison. Il venait quand même assez souvent. Ouais. Et voilà, j'avais pas forcément des personnes de foi ou des personnes avec qui je pouvais vraiment me confier. Donc, c'était juste ça, la vie de ma famille et de mon ex contre moi. Et ma conviction à moi. Donc, le coaching a vraiment aidé à venir remettre vraiment la parole de Dieu dans ça, dans cette équation-là. Parce que quand tu es sous l'emprise des émotions, des fois, tu as tendance à ne pas être assez logique pour dire « qu'est-ce que la Bible me dit ?» Parce que tu es sous l'emprise des émotions et tu as tendance aussi à mettre Dieu dans la case des hommes. Et tu te dis « mais si mes parents pensent ça, Dieu qui est mon père, c'est sûr qu'il pense ça de moi, tu vois. » Donc, le fait de faire du coaching, ça a beaucoup aidé. J'ai appris à me détacher déjà de l'opinion de mes parents, que j'aime beaucoup, mais j'avais fait aussi de mes parents une idole. la même chose que le mariage. J'ai réussi à me détacher de l'opinion des gens encore plus et d'apprendre à m'écouter moi. Oui, les gens disent A, B, C, D, mais qu'est-ce que Daniel, elle dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à Daniel? Et voilà, ça m'a beaucoup aidée aussi, également.
Dans quel moment de ta guérison as-tu senti que tu pouvais à nouveau te reconnecter à Dieu de manière authentique?
Je ne vais jamais oublier ce moment, c'est quand Dieu m'a parlé. Donc un jour, voilà, je pense que c'était à peu près 2, 3 mois après que je sois partie. Et moi, j'étais avec les événements qui sont passés après le fait que j'ai quitté notre appartement. Voilà, moi, j'avais décidé de vraiment poursuivre de vraiment divorcer. Mes parents étaient contre, comme tu le sais. Et à un moment donné, il y avait une discussion avec un de mes parents qui me disait, mais écoute, tu écoutes les conseils des gens. Mais tu ne vas trouver personne après. Tu vas finir ta vie seule. Il y aura personne. Tu seras juste seule au monde. Et ça m'a touchée. Parce que c'est venu chercher mes blessures. Et voilà, on a fini de parler. Je suis redescendue dans ma chambre. Et pendant que j'entrais dans ma chambre, Dieu m'a dit, moi, je serai avec toi. Tout le monde peut te laisser, mais moi, je serai avec toi. Et c'était audible. Sarah, ça fait beaucoup. Ça fait plus d'un an maintenant. Mais je peux pas l'oublier. Et c'est ce jour-là, j'ai dit, waouh. Oh, he's really there with me. Il est avec moi, il ne va pas me laisser. Et voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à ne plus avoir peur, à ne plus avoir peur de prier à propos de ce sujet-là, à ne plus avoir peur de lui parler de mon ressenti. Et vraiment, ça a été salutaire. Oui, je faisais le coaching, mais il fallait que j'aie cette ouverture moi-même pour pouvoir vraiment absorber tout ce que j'apprenais.
Quand on vit des événements traumatiques, difficiles, comme un divorce ou comme un avortement ou beaucoup de choses en fait, on a tendance, en fait, nos blessures ont tendance à devenir notre identité. En tout cas, on a tendance à utiliser ou à faire de nos blessures notre identité, oubliant que nous sommes plus que ça. Comment tu te reconstruis sans faire de l'étiquette de divorcer ton identité à toi? Est-ce que tu as pu trouver un équilibre entre reconnaître ton expérience de divorce et ne pas te laisser définir par elle? C'est-à-dire séparer cet épisode de ta vie de la personne que tu es?
Sarah, pour te répondre, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. En fait, en lisant, en méditant, tu te rends compte de ce que le Seigneur dit sur toi. Et ça, ce n'est rattaché à aucun label de carrière ou situation matrimoniale ou famille ou argent ou popularité. Non, Dieu dit que tu es précieuse. Dieu dit que voilà, il connaît quoi, tous les cheveux de ta tête. En fait, me rattacher à la parole de Dieu m'a permis en fait de me redéfinir. Ce n'est plus Daniel qui a été marié à telle personne ou qui a quitté son mari ou qui a abandonné son foyer comme mon ex-mari aime bien dire. C'est Daniel, la fille de l'Éternel, qui a été créée, que Dieu aime. Et voilà.
Alors, on sait que dans la communauté chrétienne, il y a un certain stigmate. Tu as un peu touché sur cette question-là, où tes parents ou des chefs religieux te disaient, oui, mais tu ne vas plus trouver qui que ce soit. Une fois que quelqu'un sait que tu es divorcé, si un homme sait que tu es divorcé, il ne va plus vouloir faire, il ne verra plus en toi une épouse. Toutes ces choses, c'est des choses-là qui peuvent nous empêcher de passer à la prochaine étape de notre vie ou qui peuvent même, en fait, pousser certaines femmes à rester dans des mariages qui sont vraiment, mais vraiment toxiques. Des mariages où on les bat. Des mariages où, tu as parlé tout à l'heure d'abus psychologiques, d'abus financiers. Il faut vraiment pas négliger l'impact de ces choses-là. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que quand tu sens que ta vie est en danger, s'il te plaît, ne laisse pas le regard des autres, ne laisse pas les mensonges de l'ennemi, les voix de Satan te contraindre à rester dans un endroit où tu n'as pas de place à être. Dieu ne t'aime pas parce que tu es marié. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Dieu t'aime d'un amour d'un amour que tu ne commences même pas à comprendre. On n'a aucune idée de la longueur, de la largeur et de la profondeur de l'amour du Seigneur. Donc avant même que tu ne répondes à ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment à cœur de dire, c'est ne laissez personne, ne laissez rien vous contraindre à rester dans un environnement qui veut vous tuer. Parce que je vous promets que Dieu, tant que votre mission sur cette terre n'est pas terminée, n'est pas accomplie, Dieu a besoin de vous vivante. Il vous préfère vivante que morte. Il vous préfère vivante que mariée et profondément diminuée, inexistante.
Un conseil que je donnerais, c'est vraiment de se connecter à la source. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, ton pasteur peut dire ça, ta mère peut dire ça, les fidèles de l'église peuvent dire ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et une chose que le Seigneur a vraiment exposée à travers tout ce processus pour moi, c'est l'idolâtrie. Et en tant que chrétien, on fait déjà. On pense souvent que les idoles, c'est juste les statues ou je sais pas, des trucs vraiment barbares. Mais on peut faire des personnes des idoles. Tu peux faire de ton leader religieux une idole, de l'opinion des gens une idole, de ce qu'ils disent de toi une idole. Mais ce que ces personnes-là disent, ces personnes-là sont des humains. Tu ne peux pas faire des créations, des créatures en fait. Tu ne peux pas mettre des créatures au-delà du créateur. Donc vraiment, se reconnecter vraiment à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, quel que soit ce que Dieu dit, c'est supérieur à quel que soit à ce que la personne dit. Peu importe ton niveau spirituel, peu importe ton niveau d'influence, ce que Dieu dit est supérieur. Donc c'est vraiment de se rattacher à ce que Dieu dit de toi. On s'entend qu'on est tous des humains, on va tous mourir, on est tous faillibles, on a tous des défauts. Alors pourquoi est-ce que tu places l'opinion des gens, ce que les gens disent, au-delà de ce que le Père éternel, celui qui a créé la galaxie entière, dit de toi?
Lorsque Joseph va être retrouvé par ses frères, après qu'il ait fini de leur faire payer à sa manière, les coups bas, le fait qu'ils l'ont mis dans une fosse, le fait qu'il ait abandonné là, le fait que Joseph se soit retrouvé en prison, il a été calomnié, la femme de Potiphar a menti sur lui. Après ça, Joseph va dire un truc quand il va voir ses frères, quand il va se révéler à eux. Il va leur dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ma prochaine question, c'est, de cet épisode difficile qui a été ton mariage, suivi de l'échec de ce mariage, est-ce que tu en ressors quelque chose de positif? Et quelles sont les choses qui ont changé en toi de manière positive après cette épreuve?
Oui, Sarah, beaucoup. Et bon, c'est pas tous les jours que je me dis ça, mais je suis tellement reconnaissante pour cette expérience parce que des fois, je m'assois et je me dis, mais si ça n'était pas arrivé avec lui, ça serait arrivé avec quelqu'un d'autre, en fait. Il fallait que je passe à travers une expérience traumatisante ou voilà, pour me réveiller, pour vraiment aller gratter toutes les blessures qui étaient enfouies en moi, pour que le Seigneur aille vraiment faire un travail de profondeur. Il y a eu beaucoup de choses, Sarah. J'aime bien dire 2024, l'année passée, donc l'année où j'ai eu la séparation, le divorce, a été l'une des années les plus difficiles de ma vie, mais aussi la plus belle. Parce que c'est comme si c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre. Je suis sortie du mode survie, de faire tout ce qu'on me demande de faire, d'être la fille parfaite, l'épouse parfaite et tout ça, pour être vraiment juste Daniel, quoi. Qu'est-ce que Daniel veut? Daniel, la fille de Dieu. Donc voilà, donc ça m'a permis vraiment de me découvrir moi-même et je suis toujours en train de me découvrir aussi. Ça m'a permis de réaliser tout ce que je dois travailler, mais ça m'a permis aussi de comprendre l'amour de Dieu pour moi. Dieu ne m'a pas mis dans ce mariage, je me suis mise moi-même et je ne suis pas la plus privilégiée pour qu'il ait permis que j'en sorte sans trop d'attache. Je n'ai pas eu d'enfant, donc j'ai pas vraiment grand-chose qui me rattache à cette personne-là et j'en suis sortie quand même assez tôt, sans qu'on ne soit rendu aux abus physiques. Donc je suis tellement reconnaissante de ça, de ce wake-up call-là que j'ai eu. Maintenant, je sais un peu voilà, sur quelle blessure travailler. Je cherche vraiment activement à marcher dans ma destinée. Je réalise l'importance de la compagnie qu'on tient, que ce soit même platonique, même si c'est pas des relations amoureuses, c'est tellement, mais tellement important. Et à quel point, oh, le plus important pour moi, vraiment, c'était vraiment le fait que mes idoles soient tombées. Et quand je parle d'idoles, je parle de mes parents, je parle du mariage, je parle de la validation, du manque d'amour, l'opinion des gens. Oh là là, plein d'idoles dans ma vie sont tombées. Et voilà, donc c'est vraiment positif pour moi. C'est bizarre à dire, oui, mais je suis reconnaissante parce que je suis vraiment sortie, j'en suis sortie grandie, plus mature et voilà, encore plus assoiffée de Jésus.
C'est la preuve que nous ne sommes pas nos erreurs, c'est la preuve que nous ne sommes pas nos blessures, c'est la preuve que lorsqu'on se dispose et que on revient vers le Seigneur pour lui demander de nous aider, pour lui demander de reprendre le contrôle, il y a un vrai travail qu'il fait en nous. Et ce travail-là laisse place en fait à un processus de transformation pour nous conduire à être la personne qu'il a toujours voulu que nous puissions être. Maintenant, on va passer à l'après. Est-ce que toi aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu crois encore en l'amour?
Ah Sarah, you're putting me on the spot. Oui et non. Oui, parce que je crois en la parole de Dieu et je crois en ce qu'il dit et je sais qu'il a des bons plans pour moi. Donc peut-être que je reviendrai bientôt à témoigner, qui sait. Non, parce que pour être honnête avec toi, après avoir traversé tout ça, des fois tu te demandes, bah, ça sert à quoi d'être marié, d'être en couple, avoir quelqu'un, est-ce qu'on est obligé? Et je vais pas te mentir, j'ai plusieurs fois souhaité avoir le don du célibat. Mais bon, comme tu l'as dit, I'm a lover girl, donc ce n'est pas pour moi. C'est dur un peu quand même de pouvoir faire confiance. Et parce que, bon, mon histoire, même s'il y avait des petits red flags, La personne avait l'air parfaite, chrétien, ambitieux, respectueux, travailleur. En fait, tu n'aurais pas imaginé ce schéma-là. Donc ça, c'est preuve qu'il faut vraiment faire très attention. Il faut énormément de discernement dans tout ce qu'on fait. Comment je vois l'avenir en termes de relations amoureuses, c'est une très bonne question. Je suis toujours en train de, voilà, moi personnellement, la personne que j'ai épousée était ma deuxième relation, donc j'ai pas vraiment un gros historique. Je m'y connais pas encore beaucoup et encore moins en relation amoureuse chrétienne. Donc là, je pense que je vais laisser le Saint-Esprit faire. Je pense maintenant il faut avoir la confirmation 10 fois avant de tenter quelque chose. Mais pour le moment, ma priorité, c'est vraiment de me concentrer à utiliser mes dons et talents, à proprement marcher dans ma destinée, à savoir vraiment qui est-ce que Dieu m'appelle à être. Et puis voilà quoi, si le Seigneur juge que voilà, je suis rendue à une étape de mon parcours où voilà, c'est le moment, bah il fera. Hein. Mais sinon, moi, je lui laisse ce volet de ma vie, je lui ai vraiment laissé en main. Vraiment.
Je pense que tout ce que t'as dit là, c'est bien. Et je crois que quand on demeure près du Seigneur, quand on le laisse nous transformer, quand on s'attelle à faire ce qu'il attend de nous, quand on est dans sa volonté, les choses viennent naturellement. Quand on reste à côté du Seigneur, déjà, il prend le temps de guérir notre cœur, comme il est en train de faire. Il prend le temps de nous équiper. Il prend le temps d'aiguiser notre discernement. Et il nous emmène à nous appuyer lourdement sur le Saint-Esprit, qui nous permet de ne plus faire des choix en portant des lunettes de personnes blessées, mais plutôt en portant les lunettes du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quels sont les critères désormais qui sont les plus importants pour toi dans une nouvelle relation? Tu avais parlé du fait que ton ex était chrétien, mais en fait, on réalise que par les fruits, il n'avait pas vraiment Christ, en fait. Alors, le fait d'être chrétien n'est pas suffisant, n'est pas un critère suffisant. Parce que dans tous les cas aujourd'hui, beaucoup de personnes s'identifient comme étant chrétiennes, mais ne vivent pas ce que c'est véritablement que la vie chrétienne. A lot of people talk, but don't walk the walk. Donc, quels sont les critères pour toi aujourd'hui, qui vont te permettre de savoir quand une personne va s'approcher de toi? Bon, en dehors même du Saint-Esprit, quelles sont les choses, en fait, que tu te mets en te disant que, OK, cette personne-là pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais envisager de cheminer. On n'est pas tout de suite en train de parler du mariage. Je me rappelle qu'il y a une conversation que toi et moi, on a eue, où je disais, fille de Jérusalem, c'est pas parce que quelqu'un te regarde qu'il faut tout de suite te voir dans la robe de mariée. Il y a tout un processus, en fait, qui nous envoie devant l'autel pour dire oui. Donc, c'est étape par étape. Donc vraiment, c'est quoi les critères aujourd'hui qui sont déterminants pour toi pour embarquer dans une nouvelle relation?
Ah, mais tu l'as dit, Sarah, c'est les fruits. C'est les fruits. Écoute, la personne peut être pasteur, évangéliste, prophète, je sais même pas, meilleur ami de Jésus. Tant que la personne n'a pas les fruits de l'esprit, demi-tour, demi-tour, barrage, non. En fait, on peut savoir une personne qui craint le Seigneur quand il y a personne. Qu'est-ce que la personne fait quand personne ne regarde, quand les caméras sont éteintes, quand vous êtes à deux? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment les fruits, la patience, le respect, l'amour du prochain, dire non à sa chair. Qu'est-ce qu'il dit pour l'abstinence? Et plein d'autres choses. Donc vraiment, vraiment les fruits de l'esprit, l'humilité. Et pas l'humilité du monde, l'humilité de vraiment qui vient de Dieu. C'est les fruits de l'esprit. C'est le meilleur filtre. C'est pas pour rien que Dieu l'a donné. C'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible. Il faut pas se mentir. Il faut être véritable. La personne peut être la plus belle de la terre. Est-ce que il ou elle a les fruits de l'esprit? Et je pense que c'est avec ça qu'on est vraiment capable de ça, de discerner, en fait, si on est fait pour cheminer avec quelqu'un ou même prévoir. Parce que c'est pas parce que la personne a les fruits d'esprit que, wow, vous êtes marié et femme, non. Ça se peut que vos appels fonctionnent pas ensemble, hein, qui sait. Donc vraiment, c'est les fruits de l'esprit. Ça, c'est le premier filtre. Et puis après, voilà, il faut voir. Mais c'est très important.
Tu as parlé d'abstinence. On va terminer avec une note un peu. Ah, t'inquiète, ça va bien se passer. On va terminer avec une question, épicé. On va aborder la sexualité dans cette nouvelle saison. Parce que la réalité est que tu as été mariée, vous avez ton conjoint et toi, vous avez fait une chair. Pas rentrer dans les détails, vous êtes des adultes, vous savez ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on aborde la sexualité après un divorce? Et cette question-là, la réponse est aussi valide pour quelqu'un qui n'est pas encore marié, pour quelqu'un qui veut vivre la chasteté avant d'aller se marier. En fait, comment on se garde dans cette nouvelle saison, surtout quand on a connu déjà la chose? C'est aussi valable pour quelqu'un, par exemple, qui a eu des relations passées, qui a eu des relations sexuelles, mais qui s'est pas marié avec la personne et qui aujourd'hui, tout simplement, est désireuse de faire les choses bien.
En un mot, je dirais close your legs, mais pour être plus honnête, je pense que c'est par rapport à ton intimité avec le Christ. Quand tu aimes le Christ, tu vas vouloir ne pas le blesser, ne pas l'offenser. Et c'est même pas que en péchant tu l'offenses, hein. C'est plus à toi que tu fais du mal. Mais voilà. Donc moi, c'est vraiment ma relation avec Dieu et le fait que je veux vraiment cheminer avec lui, je veux vraiment être en intimité avec lui tout le temps, qui me pousse à vraiment dire non à ma chair. Et en touchant un peu le point que tu as dit, bon, tu as été mariée, on connaît déjà toutes tes choses. Mais c'est important maintenant de savoir que quand tu étais jeune, tu pouvais peut-être te retrouver dans certaines situations et ne pas succomber à la tentation. Mais maintenant que c'est différent, il faut vraiment mettre des limites beaucoup plus strictes. Par exemple, moi, je décide qu'il n'y a pas d'homme qui vient chez moi. Je ne me retrouve pas seule avec un homme. Tu peux être mon frère. Non. Tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, mettre des limites assez solides, même avec ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Je ne regarde plus de comédies romantiques. Même Bridgerton, que j'aimais beaucoup, maintenant, ça ne me dit plus rien. Parce que je sais qu'en regardant ça, même si ça ne me réveille pas mon côté sexuel, ça va peut-être me faire penser à « Ah, j'ai besoin d'un amoureux, l'amour c'est beau, le romantisme, oh là là !» Et de fil en comble, tu peux facilement tomber. Le diable a vraiment toutes les astuces, donc il faut vraiment juste faire attention. Même les musiques qu'on écoute, hein. Le chanteur peut dire des choses, vraiment, on essaie vraiment de garder son esprit et son cœur. Souvent, les gens disent que l'abstinence, la chasteté, ça commence dans le cœur. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc se garder vraiment de tout. Et une des choses que je fais aussi, c'est d'offrir mes désirs, d'offrir mes hormones au Seigneur. Parce qu'on est humain, hein. On n'est pas des machines. Donc, si jamais je me retrouve dans une position où je suis vraiment dans une situation bizarre à cause de mes hormones, mais je dis, mais Jésus, je t'offre, Seigneur, voici ce qui se passe. S'il te plaît, aide-moi à tenir. Et on est appelé à avoir cette relation de franchise et d'honnêteté avec Dieu. De toute façon, il sait. Pourquoi tu veux mentir? Donc, sois honnête avec lui. Et je te promets que souvent, dans ce moment-là, il va faire qu'il y a toujours une distraction qui arrive. Et puis voilà, ça passe. Donc vraiment, moi, pour résumer, mettre Jésus en priorité, toujours. L'aimer plus que tout, l'aimer plus que ta propre chair. De deux, mettre des limites, se connaître et vraiment savoir ce qui pousse à succomber. Et de trois, être honnête, être franche avec Dieu, vraiment tout lui offrir, tout ce qu'on ressent, nos peurs. Souvent, on a peur de se dire, mais on va, Seigneur, mais je vais trouver personne d'autre. Alors, pourquoi je dois me garder? Être honnête avec Dieu et je vous promets qu'il va répondre.
Alors, et c'est sur cette note épicée que nous allons terminer cet épisode. Franchement, Daniel, merci. Merci pour ton honnêteté. Merci pour ta candeur. Merci surtout d'avoir accepté de te mettre à nu. Je sais que ça n'a pas forcément été un exercice facile. Parce que dans la préparation de cet épisode, on a beaucoup échangé sur tes peurs, tes appréhensions, sur le fait qu'il y aura un après à la suite de cet épisode. Mais franchement, merci pour ta vulnérabilité. Et j'ai envie de dire à une femme, encore une fois, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes mauvaises expériences. Dieu t'aime malgré tout. Tant que tu reconnais, que tu te repens surtout, tu te repens du fait que, voilà, tu n'as pas forcément fait les meilleurs choix. Il ne te juge pas. Mais quand tu reviens à la maison, il y a un vrai shift. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut comprendre qu'on n'est pas seul dans tout ce qu'on traverse, que même dans l'affliction, le Seigneur est avec nous. Et je crois que à travers de cette saison-là, en 2024, le Seigneur a aussi permis que tu puisses avoir une communauté autour de toi, des personnes bienveillantes qui ont pu te permettre de transitionner dans cette nouvelle phase de ta vie. Tu es une très très belle personne. Je suis très très heureuse de te compter parmi mes sœurs et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle saison. Je crois que Dieu a des choses merveilleuses pour toi et déjà, gros shout-out sur le fait de ne pas arrêter de croire en l'amour, de ne pas arrêter de croire aux promesses de Dieu. Et je crois que incessamment sous peu, en son temps, il y a une nouvelle page qui va se tourner pour toi. Alors, merci pour tout. Alors, ceci conclut le quatrième épisode de Vocal. C'était un moment agréable. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons pris du plaisir à l'enregistrer. Et on se dit à très vite.